Oh, je suis né à Orléans, je suis donc à Orléans depuis 50 ans.
Je vous demandais si vous comptez y rester.
Oui, certainement. Oh, remarquez bien qu'avec la mobilité des affaires industrielles, par exemple, il y a 15 ans, il m'aurait paru impensable que mon patron m'appelle d'aller du jour au lendemain à Marseille ou à Lyon ou à Lille. Et depuis 3 ou 4 ans, je voyage beaucoup uniquement dans la France métropolitaine, mais je suis souvent appelé et je suis prévenu dans les facultés 3 ou 4 jours à l'avance pour me déplacer dans toutes les facultés de France, voyez-vous. Donc, mais c'est uniquement au point de vue voyage, mais je rentre au bercail, le travail terminé.
Est-ce que la ville d'Orléans vous semble satisfaisante justement pour l'emplacement de cette entreprise?
Ah oui, oui, ça, la ville d'Orléans paraît satisfaisante parce qu'on est vraiment au centre de la France. En automobile, c'est une chose appréciable parce qu'on peut se déplacer justement assez facilement, soit à l'est, soit à l'ouest, soit au nord, soit au sud. Et puis, en chemin de fer, nous sommes au carrefour de deux grands nœuds ferroviaires. Et puis, troisièmement, tant que Orly restera l'aéroport principal, il m'arrive souvent l'histoire suivante. Je voyage souvent avec un collègue qui habite à Neuilly. Le temps qu'il vienne à Neuilly et que moi j'arrive d'Orléans à Orly, nous nous retrouvons en même temps, au bout d'une heure, on est tous les deux en partant à la même heure de Neuilly ou d'Orléans, on est à la même heure à Orly. Ce qui était vraiment quoi, fort appréciable dans les affaires.
D'accord. Pour passer à la production, proprement dite, qu'est-ce que c'est que vous
peut-être que je ferme. Alors, nous sommes le troisième laboratoire pharmaceutique de France. Pratiquement, nous sommes une fabrique de médicaments qui avons notre siège social à Orléans. C'est nous qui exportons le plus de tous les laboratoires français en Angleterre, c'est à souligner. Et puis, nous avons nos activités réparties entre Orléans, Neuilly, où nous avons notre direction générale, et Suresnes, où nous avons notre laboratoire de recherche.
Comment se fait-il que cette sorte d'industrie se soit établie à Orléans?
Pour une raison historique, le père du directeur actuel, c'est une affaire familiale, son père était venu se fixer en 1923 à Orléans, et depuis ce temps-là, vu justement les commodités de liaison entre la capitale et aussi le reste du pays, l'affaire est restée à Orléans et n'a cessé de croître et de prospérer.
D'où viennent les matières premières?
Alors, les matières premières, nous fabriquons la majorité de nos matières premières dans une usine que nous avons à Bolbec, près de Rouen. Et puis, nous achetons évidemment beaucoup de matières premières, enfin une grande majorité auprès de fabricants de produits chimiques français. Et puis enfin, sur le plan international, nous achetons beaucoup soit en Allemagne, soit en Angleterre aussi beaucoup, ou le Royaume-Uni. On achète au point de vue matières premières pas mal de matières premières en Angleterre. Et puis, dans le reste du monde, vous savez, tout ce qui est, en particulier, nous faisons une spécialité à base dont les alcaloïdes sont extraits de plantes, et ces plantes-là sont cultivées en Inde, etc., au Brésil. Enfin, voyez-vous, nous avons évidemment une source de matières premières, suivant que ce sont soit des matières naturelles, soit des matières synthétiques, qui est très très différente.
Et pour la distribution, quel moyen de transport est-ce que vous utilisez?
Alors, en France, nous utilisons la route, mais je pense que dès que nous allons à l'étranger, les 4/5 de nos transports se font par voie aérienne, parce que les médicaments sont tout de même des produits relativement chers par rapport à leur poids et à leur volume. Maintenant, certainement, que vu notre chiffre d'affaires avec l'Angleterre, nous utilisons certainement des moyens routiers et ferroviaires ou par le bateau, je ne sais pas, pour aller en Angleterre.
Donc, vous exportez beaucoup en Angleterre, et dans tous les coins du monde.
Vous voulez que je vous montre une documentation?
Oui, volontiers.
Arrêtez voir.
Donc, vous vendez beaucoup en Angleterre, par exemple, ce genre de choses?
Oui, eh bien, nous vendons beaucoup un anorexien qui s'appelle le Pont d'Érax et qui aide les gens à maigrir. Cette réussite a été tellement grande que en 1969, les produits pharmaceutiques ont subi une augmentation de 119% par rapport à 68, et ce succès est dû à l'implantation des laboratoires Servier qui ont eu une progression remarquable dans cette branche.
Oui. Alors là, sur ce... Cela vraiment, cette documentation représente vraiment vos débouchés dans le monde extérieur.
C'est ça.
En Europe, en Afrique,
oui.
En Amérique.
Alors, pratiquement, nous avons... Arrêtez-moi. Implantation française réalisée en Grande-Bretagne. Et je vous ai dit la première, je crois bien.
Je pense, oui.
Vous pourriez faire retourner un tout petit peu en arrière qu'on écoute ce que j'ai dit?
Oui.
Alors, j'ajouterais aussi que nous avons des filiales en Allemagne, en Angleterre, de loin la plus importante, puisque nous avons 88 personnes. Vient ensuite, par ordre, la seconde filiale qui est au Brésil, ou non, plutôt, la filiale d'Espagne est plus importante que la filiale du Brésil. Et enfin, vient la filiale d'Italie.
Oui.
Alors, nous avons des agences dans plus de 50 pays dans le monde, en Europe évidemment, dans tous les pays de l'Europe, en particulier du marché commun. Nous avons des agences en Afrique noire, en particulier au Maroc, en Tunisie, en Algérie et à Madagascar. Nous avons des agences en Amérique, donc nous avons parlé du Brésil, de la succursale, mais nous avons des agences en Argentine, au Canada, au Mexique, au Pérou, en Uruguay, au Venezuela. Nous avons des agences aussi au Cambodge, au Japon, au Liban, aux Philippines et en Turquie. Et puis aussi dans l'Océanie, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Voilà, merci. Est-ce qu'il s'agit partout de la même gamme de produits?
Non, il est évident que suivant les maladies qui se propagent plus ou moins suivant les régions, nous avons des médicaments très différents à proposer. Par exemple, nous avons un antibiotique par voie pressurisée par aérosol, un antibiotique insoluble qui agit sur le système rhinopharyngé et qui est beaucoup plus employé dans les régions froides que dans les régions chaudes. Par contre, certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à l'augmentation de poids, et notre produit dont j'ai parlé, qui sert à faire maigrir les gens, est beaucoup plus employé dans certains pays, d'autres aussi.
Est-ce que ces filiales ont des rapports entre elles?
Oui, ça, sans aucun doute. Tout est centralisé au 171 avenue de Neuilly, où se trouve notre direction générale.
Merci. Est-ce que vous pourriez me donner, peut-être c'est déjà documenté, une idée du chiffre de production?
Le chiffre de production, 2200 molécules originales, mais ça vous intéresse? Non, on a déposé 844 brevets, dont 716 à l'étranger. Hein, nous occupons la troisième place parmi les laboratoires français.
Alors, il faut penser que la production est en expansion.
Ah oui. Alors, vous m'enregistrez là ou non, ça marche?
Juste là, oui.
Oui.
Question.
Alors, vous me posez la question ou non, c'était enregistré là
Une partie. Quand...
Alors, au point de vue importance des laboratoires, pour vous situer le problème, mensuellement, nous dépassons le milliard d'anciens francs de chiffre d'affaires par mois, assez largement. Et ce qui est important, c'est que notre laboratoire de recherche nous permet de nous placer très très loin au point de vue avance sur les produits découverts. Par exemple, en 1968, sur 13 produits valables découverts en France et mis sur le marché, deux provenaient de nos laboratoires. À ce jour, nous avons synthétisé 2200 molécules originales et cela a nécessité 12 000 produits intermédiaires de synthèse. Enfin, nous avons déposé 844 brevets, dont 716 à l'étranger. Pour le brevet spécial de médicaments, nous occupons la troisième place parmi les laboratoires français et la 12e place parmi tous les laboratoires français et étrangers.
Est-ce que je peux vous poser maintenant des questions sur les techniques, les méthodes?
Oui, certainement, les laboratoires Servier ont inauguré au mois de septembre une animalerie SPF, excusez-moi de si mal parler anglais, spécifique pathogène free, hein, d'animaux qui dérivent d'animaux de germes free et qui ont été réensemencés avec des souches non pathogènes des espèces considérées. Nous avons ici, nous sommes les seuls en France à l'heure actuelle, je crois, avoir un élevage aussi important de lapins SPF, de rats SPF et de souris SPF, ce qui permet d'obtenir des résultats beaucoup plus constants qu'avec les animaux sans germes pathogènes. Les résultats, en particulier les DL50, c'est-à-dire les essais de toxicité, et même les toxicités chroniques ainsi que la tératologie, donnent des résultats beaucoup plus homogènes avec les animaux SPF.
Merci beaucoup. Est-ce que les méthodes ont changé beaucoup depuis la guerre ?
Ah oui, énormément. Notre laboratoire qui en 1945 n'avait pratiquement pas de laboratoire de recherche s'est lancé dans la recherche aux alentours des années 50 et progressivement, pour vous donner une idée de notre effort, alors que la moyenne des laboratoires se situe aux alentours, je crois, de 8,50 ou 9%, nous consacrions plutôt en 1968-69 11,3% de notre chiffre d'affaires pour la recherche et en 1970 nous consacrerons 12,4%, c'est certainement le pourcentage le plus élevé dans notre profession en France. Non, je m'excuse, je découvre le chiffre de l'ensemble de la profession en France se situe au niveau 6,8 au lieu de 8,5 que je vous annonçais.
Est-ce que vous bénéficiez d'une aide financière de l'État?
Ah non, ça en France, il y a un problème évidemment très crucial et très important, non pas du tout que la recherche scientifique en France ne soit pas nécessaire en soi, mais au stade de l'efficacité pratique, il est évident que la recherche privée avec des chercheurs privés donne une stimulation beaucoup plus grande pour les applications de la recherche, et il est évident que nous n'avons aucune subvention là d'État, sinon des échanges et une aide au niveau des professeurs de faculté ou des centres de recherche où nous nous communiquons mutuellement nos différentes recherches et nos différentes découvertes.
Et dans le cadre des plans de la planification
L'annonce à la recherche privée est complètement en dehors de la recherche d'État et uniquement autofinancée par les bénéfices de l'entreprise.
Si vous vouliez établir une succursale, une filiale autre part en France, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez demander une aide gouvernementale?
Ah non, certainement pas, certainement pas.
Est-ce que la ville ou le département peut vous surveiller ou vous freiner?
Ah oui, sur le plan national, en France, les médicaments ont un système de visa, exactement de mise d'autorisation, de mise sur le marché, qui est un contrôle gouvernemental qui est très sérieux et qui est exercé par des experts qui sont soit des professeurs de faculté, soit des gens qui ont été nommés sur une liste désignée par le ministre et qui font à la fois des expertises analytiques, des expertises toxicologiques, des expertises cliniques qui permettent justement d'obtenir cette autorisation de mise sur le marché.
Pour parler du personnel qui travaille ici, combien de personnes travaillent dans l'établissement ?
Le groupe Servier en lui-même doit compter 1500 personnes dans Servier France et étrangers. Alors, vous remettez bon. Au point de vue laboratoire Servier, strictement laboratoire Servier, nous avons ici 751 personnes, mais tout le groupe Servier France fait environ 1250 personnes. Si on ajoute le chiffre de gens employés dans nos filiales, nous dépassons les 1500 personnes.
Et quelles sont les différentes catégories d'employés ?
Nous employons d'abord beaucoup de femmes en partant par le plus bas niveau, ce qui ne veut pas dire, enfin au point de vue production, nous avons beaucoup de femmes au conditionnement, nous avons beaucoup de femmes à la fabrication, nous employons aussi beaucoup de laborantines, ce pourcentage des femmes se ressent aussi dans les cadres. Je crois que nous sommes une des rares entreprises françaises à avoir près de 40% de femmes cadres, mais je ne peux pas affirmer le chiffre exact. Mais cela tient beaucoup à la volonté de la direction générale, en particulier du docteur Servier, et qui est aidé dans sa tâche par Madame Servier, qui est elle-même docteur en médecine et qui est responsable de notre laboratoire de recherche de Suresnes. C'est vraiment quelque chose de typique tout de même dans une entreprise française d'avoir un tel pourcentage de femmes dans l'entreprise. 40% de cadres, ça fait important.
Oui. Et sous la rubrique cadre, vous entendez également les chercheurs, les scientifiques.
Ah oui, je parle pour tout le groupe Servier. Oui.
Une question un peu délicate. Comment est-ce que les salaires ou les traitements sont fixés?
Il me serait difficile de vous donner des chiffres précis, mais je puis par contre vous donner la ligne générale de l'entreprise, ce que désire notre grand patron. Il est partisan d'une politique de haut salaire et il préfère payer davantage les gens pour obtenir un rendement meilleur plutôt que d'avoir des gens qui ne soient pas contents de leur sort, qui soient peu payés et produisent peu. Je parle surtout au niveau intellectuel des gens. On est certainement assez exigeant vis-à-vis là des cadres. Les cadres sont bien payés, mais on estime qu'ils doivent fournir un travail suffisamment valable, sinon ils n'ont pas leur place dans notre entreprise.
Et au niveau plus bas?
Au niveau plus bas, je ne sais pas. À l'heure actuelle, il y a les salaires se situent, les salaires les plus bas, entre 800 à 1000 francs pour les femmes, c'est les salaires minimum, hein, ce qui représente tout de même des salaires suffisamment confortables pour des ouvrières ou des manutentionnaires. Hein, les hommes doivent être entre les salaires les plus bas des hommes doivent être entre 1100 et 1200 francs les salaires les plus bas.
Est-ce que vous trouvez facile de recruter les ouvrières?
Oui, parce que nous avons une certaine réputation sur la place, d'une part due à notre politique de haut salaire, aussi. Les gens se plaisent dans la maison, peut-être sentimentalement à tort ou à raison, mais les laboratoires Servier sont une entreprise familiale où le patron attache une grande importance à ce que tous les gens soient traités comme des personnes et non pas collectivement. C'est-à-dire que les gens qui entrent chez nous, en général, sont inscrits depuis longtemps à l'avance, demandent à entrer et... Nous avons un système de promotion bien développé, aussi d'aide sociale suffisamment étoffée. Tenez, je vous donne un exemple. Par exemple, toutes les femmes chefs de famille, c'est-à-dire qui sont mères célibataires, qui ont un enfant, ou bien les femmes dont un seul salaire rentre dans le foyer, où l'homme, pour des raisons quelconques, ne peut pas travailler. Elle touche un sursalaire qui va de 100 à 150 francs par mois. Et c'est une chose qui est spécifique à notre entreprise. Il n'y a aucune autre entreprise française qui ne fait ça à l'heure actuelle. Alors, le second effort aussi, c'est sur le régime des retraites. La firme, la direction, verse beaucoup dans les caisses de retraite privées, de manière à ce que l'âge de la retraite, à l'âge de la retraite, nos salariés aient une retraite beaucoup plus importante que ce qui est communément donné à la sécurité sociale. Vous voulez des chiffres exacts ou l'exemple?
Très intéressant, s'il vous plaît.
Alors attendez. Alors oui. Attendez, vraiment, c'est une gratification exceptionnelle. Prime allocation. Voyez-vous, je peux vous expliquer tout ce bazar-là. Enfin, grosso modo, c'est un peu régime complémentaire de retraite, hein, ce que je vous ai parlé. J'ai oublié la mensualisation automatique, mais ça, tout le monde le fait. Gratification optionnelle en fin d'année, ça existe. Prime, j'ai oublié les primes à l'occasion d'événements familiaux. Et surtout, voyez-vous, l'allocation mère chef de famille. 100 francs par mois pour un enfant. Ça n'enregistre pas là, non?
Si, maintenant.
Ah bon? Oui.
Allez-y toujours, alors, s'il vous plaît.
Oui. Alors, voyez-vous, on peut résumer les avantages sociaux dans notre firme par, d'abord, ce que je vous ai parlé des régimes complémentaires de retraite, de manière à pratiquement ce qu'il en résulte que la valeur de la retraite dans notre entreprise est approximativement le double de ce qu'elle serait si l'on s'en tenait au seul terme des conventions collectives en cours. La mensualisation automatique, deuxièmement, oui, la mensualisation automatique, et ça, nous avons fait ça depuis plus d'un an, nous sommes tous les ouvriers, employés, manœuvres sont mensualisés à l'heure actuelle. Des gratifications exceptionnelles en fin d'année, nous sommes pas la seule entreprise à le faire, c'est évident, mais tous les ans, la firme distribue une gratification exceptionnelle une fois par an. Hein, proportionnel, le montant de cette somme est fonction de l'importance des responsabilités prises par chacun, n'est donc pas fixe, et est aussi proportionnel à l'ancienneté dans la firme. Bon, des primes à l'occasion d'événements familiaux, ensuite, primes de mariage, de naissance, qui sont évidemment accordées en plus de ce que la sécurité sociale peut accorder, et qui aide tout de même beaucoup les gens au moment de ces naissances ou de ces mariages. Alors, la formule originale que nous avons et que nous sommes, à ma connaissance, les seuls à avoir en France, c'est l'allocation à la mère chef de famille. Pour toutes les mères de famille célibataires, veuves ou divorcées, hein, la direction donne 100 francs par mois pour un enfant, 150 francs par mois au-delà d'un enfant. Cette allocation s'ajoute au salaire, indépendamment de tout facteur hiérarchique d'ancienneté ou autre. Bon, enfin, des avantages sociaux, un service médico-social, des vaccinations, un grand nombre de soins médicaux qui ne relèvent pas évidemment des accidents du travail qui sont gratuits. Enfin, des restaurants d'entreprise où les prix sont particulièrement économiques, même dérisoires. On peut manger des repas très confortables pour 2,50 € par jour. Des conseils juridiques. Enfin, les personnes qui se heurtent à des difficultés graves dans la vie, hein, des difficultés d'ordre juridique, ont droit à des consultations gratuites auprès de juristes qui sont payés par notre entreprise. Voilà un petit aperçu de notre activité.
Intéressant, vraiment.
C'est vrai?
Oui, est-ce que ces ouvrières, vous les formez sur place?
Oui. Tout dépend du degré de technicité. Quand il s'agit des manœuvres des ouvrières, nous les formons sur place. Mais par contre, dès qu'on arrive à un certain degré de technicité, il existe des écoles de laborantines, il existe des IUT en France, il existe des facultés. Il n'y a pas de raison pour que nous fassions le travail là où véritablement les gens sortent avec une formation valable. Le gros problème pour nous, c'est surtout le problème du recyclage des cadres qui sont dans l'entreprise et qui ont à être tenus au courant des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Et ça, nous avons des cadres à Neuilly qui s'occupent spécialement du recyclage de leurs collègues, qui s'occupent de les faire participer à des sessions, etc., ou qui en organisent.
Alors, des sessions vraiment scientifiques,
soit scientifiques, soit dans le domaine technico-commercial, soit dans le domaine financier, soit dans le domaine administratif, pour ceux qui relèvent de ces disciplines.
Oui. Alors, cela s'applique à des cadres qui sont déjà depuis un certain temps dans l'entreprise?
Ah oui. Moi-même, personnellement, là, il y a 8 jours, j'ai été participer à une réunion à Paris d'attachés de presse pour faire le point et voir où on en était à ce point de vue-là. Voyez-vous, au point de vue relations publiques, on a aussi à se recycler.
Oui, est-ce que vous pouvez me raconter un peu de détails ce qui s'est passé là, à ce moment-là?
Ce serait assez difficile, quoique le but principal c'était de nous enquérir si les différents journaux de la grande presse, soit parisienne, soit de province, avaient des correspondants scientifiques qui pouvaient s'intéresser aux questions médico-pharmaceutiques et avec qui on puisse correspondre et exposer des problèmes d'ordre général qui intéresseraient directement le grand public.
Il vous revient d'être un peu en contact avec le public dans le travail?
Oui, parce que certainement en France, au point de vue scientifique, le public est peu sensibilisé et il existe certainement une catégorie d'individus qui voudraient se cultiver par la presse au point de vue scientifique, et il y a certainement une déficience de part et d'autre, à la fois des journalistes qui ne recherchent pas assez, nous-mêmes qui les informons pas assez. Voilà un petit exemple.
Ensuite, j'en viens à d'autres questions. Je pense qu'on peut dire que voici une grande entreprise, vraiment.
Oui, enfin, à l'échelon pharmaceutique, une grande entreprise, oui.
Est-ce que vous trouvez cette situation satisfaisante? Ça, certainement, oui.
La situation de l'entreprise, oui.
Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y aura des avantages à rester petit, par exemple?
Ah, oui, en ce sens-là, certainement que non. Pour être valable à l'heure actuelle, une entreprise pharmaceutique, surtout vis-à-vis des problèmes d'exportation, et les problèmes d'exportation à l'heure actuelle est une question de vie ou de mort pour toute entreprise d'une certaine importance, eh bien, pour arriver à avoir voix au chapitre dans l'exportation, il faut avoir une étoffe suffisante qui vous permette de proposer des produits valables à l'étranger. Car à l'étranger, plus qu'en France, enfin en France le système est exactement identique, vous pouvez très bien lancer une spécialité non valable qui ait aucun effet thérapeutique ou très peu d'effet thérapeutique. Mais l'expérience prouve qu'au bout d'un an, la spécialité tombe à l'eau. Donc, si nous voulons exploiter des spécialités valables, c'est-à-dire des spécialités qui ont une activité pharmacologique ou pharmaceutique très déterminée, il faut avoir les moyens de diffusion suffisants pour proposer en France et à l'étranger le produit que nos chercheurs ont mis 3 ans, qu'est-ce que je dis 3 ans, souvent 5, 6, 7 ans à découvrir et à mettre au point.
Et comment est-ce que vous faites la publicité pour les produits?
Ah, en France, la publicité, il y a la vente des produits au grand public où la publicité est libre et peut être faite dans les journaux, par la radio, par la télévision, etc. Et les produits dits médicaux où la publicité au grand public est formellement interdite et où on peut uniquement soit faire de la relance médicale à l'aide d'attachés médicaux qui vont voir les médecins chez eux et qui leur resituent l'activité originale du produit que nous proposons, ou bien aussi une publicité, mais une publicité qui est surtout axée, et là nous sommes, je pense, très très bien situés pour en parler, dans un sens de documentation beaucoup plus que publicitaire, et qui permet aux praticiens qui lisent nos revues de se recycler sur un problème par la lecture de nos publications. Nos publications ont une très haute tenue scientifique et je ne citerai, pour corroborer ce que je viens de dire, que le fait que de nombreux étudiants en médecine nous demandent nos documents justement parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont une valeur scientifique certaine et utile pour leur profession.
La question qui suit, je pense que vous avez déjà répondu un petit peu. Est-ce que vous trouvez que l'inquiétude montrée par les petites entreprises et les petits commerces est justifiée?
Ah oui, certainement. Certainement. Enfin, nous sommes vraiment dans une industrie très très à part et il est évident que à l'heure actuelle, nous pensons recherche et production de médicaments et pas du tout point de vente, vous comprenez? Alors, dans l'industrie pharmaceutique, il est évident que le petit laboratoire qui vit encore à l'heure actuelle et qui n'a pas de recherche, mourra d'étouffement d'ici 5 ou 10 ans. Enfin, ça serait un fait exceptionnel qu'une découverte importante soit le fait d'un seul. Les découvertes se font en équipe, hein, et une recherche n'est concevable qu'à l'échelon d'équipes de gens qui font de la synthèse organique, qui peuvent analyser les corps qu'ils ont synthétisés et surtout qui peuvent en faire les essais pharmacologiques. Donc avoir une équipe de chimistes et de pharmacologues, avoir une animalerie qui est exigée par toutes ces recherches, ça représente un budget considérable qui n'est plus du tout à l'échelle d'un petit laboratoire.
Oui.
Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, très clairement. Est-ce que pourtant il y a la place pour des initiatives personnelles?
Au sein de la grosse entreprise?
Oui, de la
vôtre. Oui. Ah oui, je voudrais que vous voyiez travailler en particulier nos chercheurs à Suresnes. Ils travaillent par petits groupes de 7 ou 8 avec un chef de file et il existe un échange constant, d'abord hebdomadaire où ils se retrouvent tous, mais presque quotidien, entre le chimiste qui synthétise telle et telle molécule organique et le pharmacologue qui expérimente cette molécule, qui recherche les molécules intermédiaires et qui cherche à orienter donc la synthèse terminale vers un produit plus actif. Tout cela ne peut se faire que par un échange constant et une responsabilité des gens à tous les niveaux pratiquement.
On parle de la concentration des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de la perspective éventuelle de vous mettre d'accord avec une autre entreprise dans la même branche?
Écoutez, certainement que c'est une question qui dépasse considérablement ma compétence, puisque moi je ne m'occupe que d'un tout petit secteur là dans la maison, et cela dépend du directeur général. Mais pratiquement, je vous ai parlé tout à l'heure de compétitivité au point de vue recherche et mon opinion personnelle. Et qu'un chercheur a beaucoup plus d'ardeur quand il sait qu'il travaille pour une entreprise qui est personnalisée, plutôt que pour une association de plusieurs entreprises où les responsabilités sont plus diffuses. On rejoint le problème de la recherche d'État qui n'est pas inutile, mais qui est complètement différente et où une grande partie de la stimulation du travail, de voir le fruit de son travail, disparaît dans un groupe trop diffus. Voilà tout ce que je peux dire.
Et la dernière question est beaucoup plus généralisée. C'est dans le cadre d'Orléans même et les autres industries, il paraît que la liste des entreprises industrielles à Orléans comprend un très grand nombre d'entreprises à moins de 50 salariés.
Oui.
C'est-à-dire des entreprises familiales.
Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ah, je pense qu'en soi, l'entreprise familiale est une excellente chose. Mais cela pose tout de même, je suis peu compétent dans ce problème, mais ça pose à la fois un problème de rendement par rapport à la grosse entreprise. L'entreprise familiale, pour certaines tâches, est beaucoup plus proche à la fois, par exemple, de la clientèle, ou au contraire, l'entreprise familiale peut faire un travail beaucoup moins de série que la grosse entreprise. Donc, elle a sa valeur à sa place. Mais secondement, il y a une question de fiscalité qui joue aussi, et je pense qu'en France, l'entreprise familiale, dans certaines fois, est certainement désavantagée par rapport aux très très grosses entreprises au point de vue fiscalité.
Oui. Est-ce qu'à Orléans, vous avez le sentiment, vous habitez depuis longtemps, qu'il y a des gens vraiment qui se sentent acculés par la marche du progrès, par la marche des événements, ainsi dire?
Oui. Quoique, alors je parle en orléanais, certainement que Orléans, une partie du commerce orléanais vit sur sa tradition, avec toutes les valeurs que cela représente, mais avec le manque de dynamisme aussi que cela représente. Je vis dans une entreprise qui a un pied à Paris et un pied à Orléans, le gros pied étant Orléans, et je me rends compte que, en particulier dans le domaine international, dans le domaine de l'expansion, de vivre replié dans sa petite ville a certainement de gros inconvénients, et qu'on a besoin de voir d'autres cieux et d'autres terres pour voir ce qui se passe dans le monde, et stimulé par les expériences des autres pays.
Déjà, Paris se décentralise un petit peu, mais je pense que les établissements servis ont été ici, vous êtes depuis.
Oui, ah, j'ai oublié de vous parler d'une chose importante qui va se produire dans l'avenir. À Orléans, à l'heure actuelle, nous avons trois points de chute, trois localisations, qui est la fabrication, enfin grosso modo, la fabrication qui se trouve rue Eugène Vignat, le conditionnement qui se trouve à Fleury-les-Aubrais dans une autre usine, et nous avons à Gidy, à 9 km d'Orléans, un terrain de 30 hectares où pour l'instant nous n'avons que notre animalerie et les différentes, par exemple une chaufferie qui aide la climatisation de l'animalerie, à fonctionner la climatisation de l'animalerie. Mais sur ce terrain de 30 hectares, déjà tout est prêt pour accueillir l'usine. Nous avons fait les routes et je ne dis pas sous peu, mais enfin sous quelques années, toute notre installation orléanaise sera regroupée dans la grande banlieue d'Orléans. Et je pense que c'est un effort à souligner qui nous permettra tout de même une expansion, quoi, de prévoir une expansion beaucoup, beaucoup plus forte.
Et est-ce que cela aurait été, pensez-vous, sans la décentralisation qui amène énormément de gens à habiter Orléans ? Un autre lieu aurait peut-être été choisi ?
Par rapport, pour les laboratoires Servier ?
Oui.
Alors je pense que pour les laboratoires Servier, la raison historique d'être situé à Orléans nous a confirmé à rester dans cette plaque tournante qui est une plaque tournante très très valable, hein, voyez-vous.
Est-ce que les gens qui travaillent là sont des Orléanais ou viennent d'autre part ?
Oh, nous avons évidemment parmi le personnel ouvriers, employés, nous avons surtout des Orléanais, mais parmi le personnel cadre, nous avons, je peux vous citer puisque je connais bien les pharmaciens en particulier, nous avons un pharmacien qui vient de Dunkerque, nous en avons une autre qui vient de Marseille, nous en avons une autre qui vient de Bordeaux, voyez-vous, ça, il est évident qu'à l'échelon cadre, il y a un grand mélange à l'heure actuelle et une grande intégration.
Merci beaucoup, messieurs.